Le journal Adiachipoukou. Bonsoir et voici tout de suite les grandes lignes de cette édition. L'office cadet de Patrice Emery Lumumba exige une enquête au niveau national sur l'assassinat de son père. Roland Lumumba l'a dit à l'occasion de la commémoration ce mardi de la mort du père de l'indépendance de la République démocratique du Congo. À Goma, un officier des FRDC refuse d'obéir aux ordres de la hiérarchie. Le colonel Kasikila n'a pas voulu se rendre à la réunion convoquée par le commandement de la 8e région militaire pour cause l'attaque de son convoi par des éléments appartenant à cette région militaire. À la une également, le bras de fer entre les agriculteurs de la chefferie de Mulundu et ceux de Kanichin au Kasaï oriental. Les deux parties réclament depuis plusieurs années le droit de propriété sur une portion de terre. Aucune solution à ce conflit jusqu'à ces jours. Roland Lumumba exige une enquête nationale sur l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, son père, le dernier fils de l'ex-premier ministre congolais, assassiné le 17 janvier 1961, l'a dit ce mardi à Kisangani à l'occasion de la commémoration du 45e anniversaire de l'assassinat du père de l'indépendance du Congo. On écoute Roland Lumumba au micro de José Deschartes Menga.
Il ne suffit pas de déclarer quelqu'un héros national, il faut aller voir. Il a été assassiné. Il n'est pas mort dans son sommeil. Il faut poursuivre notre État, notre gouvernement. Il faut qu'il s'implique à la recherche de cette vérité. Et je demande aux autorités aujourd'hui de cesser ce mutisme sur cet assassinat et de commencer à ouvrir des procès de Lumumba au niveau national. Il ne suffit pas que j'aie la vérité. Nous, on n'est pas là pour pointer quelqu'un du doigt. Chacun a sa vérité, qui ça reste dans son cœur. Maintenant, c'est à la justice de faire son travail. Je ne suis pas juge. Si vous voulez des jugements sentimentaux, je ne crois pas, je n'aimerais pas me glisser à ce niveau. Comme ça a été fait au niveau de la Belgique, un procès, une enquête qui a établi la responsabilité, même on peut le faire à notre niveau, au niveau de notre pays aussi.
Signalons par ailleurs que la cérémonie de commémoration du 45e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba a eu lieu au stade portant son nom dans la commune de La Tchopo à Kisangani, ville dans laquelle Patrice Emery Lumumba a commencé sa carrière politique. Une cérémonie commémorative de la mort de Lumumba a également eu lieu ce mardi 17 janvier 2006 à Kinshasa. Des gerbes de fleurs ont été déposées au pied du monument Lumumba érigé à l'échangeur de Limété. Le président Joseph Kabila et plusieurs personnalités tant civiles que militaires était présent. Dans le Katanga, le pasteur Ngoï Mulunda a récupéré le week-end dernier des armes de guerre des mains des éléments Maïmaï de Kitenge. Le responsable de l'ONG PAREC affirme qu'il a remis les grenades et les bombes à l'état-major de la brigade FRDC basée à Kitenge. Quant aux armes de type AK-47, il dit les avoir toutes détruites lui-même pour éviter qu'elles ne soient de nouveau utilisées contre les Maïmaï. Pasteur Ngoï Mulunda au micro de Jean Gandou.
Le PAREC n'est pas au service de l'armée. Le PAREC est une ONG. Et il y a un problème. L'armée n'est partie par ce que nous faisons. Ce n'est pas nous qui devons prendre aujourd'hui les armes et que les mêmes armes tournent pour tuer les mêmes maïmaïs à la population civile. Ça va nous discréditer. Nous, notre point de vue, ce n'est pas celui d'armer l'armée. L'armée appartient à la nation. La nation a un budget. Même si la nation est sous embargo des armes, ce n'est pas au PAREC d'aller prendre les armes et de les redonner à l'armée. Sinon, nous allons perdre notre vision et notre mission. Donc là, vraiment, c'est sans compromis, il n'y a pas de négociation. Les armes que nous retenons, nous allons les scier.
Radio Okapi a tenté de contacter les hauts responsables de l'armée nationale sur la destruction de ces armes. Ils se sont réservés à tout commentaire. Dans le Nord Kivu, c'est le colonel Jean-Marie Kasikila, commandant de la 5e brigade intégrée, basée en territoire de Rutshuru, qui refuse de participer aux réunions du commandement de la 8e région militaire à Goma. Il a pris cette décision après l'attaque de son convoi il y a 10 jours par des hommes armés sur la route de Goma-Rutshuru. Le point avec Moïse Mutunga.
Cette attaque qui a eu lieu le samedi 7 janvier a fait 9 blessés, dont sa femme qui faisait partie du convoi. Selon le colonel Kasikila de la composante Maïmaï, cette embuscade avait été tendue par les éléments de la 8e région militaire qui contrôle les territoires de Nyiragongo. Raison pour laquelle, dit-il, il ne veut plus participer aux réunions de la 8e région militaire à Goma, ne se sentant plus sécurisé. Il demande un déploiement rapide des militaires brassés dans les territoires de Nyiragongo. On l'écoute.
À Kibumba et Rugari, j'ai été attaqué par les éléments de l'unité défense de la 8e région militaire du capitaine Nishima et de la 83e brigade. si on ne met pas encore une unité brassée sur cette route, je ne passerai pas parce que ma vie est en danger. Je demande à la hiérarchie de placer des éléments brassés sur ces tronçons et qui sont en faveur du gouvernement.
Dans une réunion du commandement de la 8e région militaire qui s'est tenue ce lundi à Goma, le colonel Jean-Marie Kasekila s'est fait représenter par son sego de l'ex-ANC, le colonel Massoudi Espérant. Le commandant de la 8e région militaire, le général Amissi, s'est abstenu de tout commentaire sur la décision du colonel Kasekila. Moïse Mutunga Lukube, Goma, Radio Okapi.
Pendant ce temps, dans le sud Kivu, on signale une attaque dans la localité de Nyamaregué, groupement de Kanyola en territoire de Walungu. Cela s'est passé dans la nuit de lundi à mardi. Le bilan provisoire fait état d'une personne tuée et 5 vaches emportées. La 10e région militaire affirme que cette attaque a été menée par les combattants hutu-rwandais. Information confirmée par un habitant de Nyamaregué qui a requis l'anonymat au micro de Jean Kassami.
C'était vers 11h de la nuit. Les vaches de lait sont arrivées dans notre village. Ils ont rencontré un vieux, ils ont trouvé un coup de couteau, le vieux a décédé, ils ont porté même 5 vaches. Les militaires ont intervenu, mais dommage comme il n'y a pas beaucoup de militaires.
Pour l'instant, quelle est la situation là-bas? Est-ce que la population est dispersée?
Pour la population a regagné leur maison, mais pendant la nuit, la population était fuite. C'est l'habitude parce que dernier temps, on avait encore arrivé dans notre quartier, ils ont porté au moins 2 personnes et au moins 15 vaches. Il n'y a pas même 2 semaines.
Conditions carcérales déplorables à la prison du chef-lieu du territoire de Lubero. Cette prison est confrontée à des problèmes d'hygiène et à la surpopulation. La société civile de la place exprime sa déception et parle de négligence de la part des autorités administratives et policières. Papier de Étienne Moïndo rendu par Nazer Nkoko.
La prison de Lubero, chef-lieu du territoire qui porte le même nom, est un ancien clapier. Cette prison n'a ni eau courante ni électricité, encore moins des lits et des latrines. Les détenus passent la nuit à même le sol et font leurs besoins dans des bidons, déplore la société civile. Cette société civile se déclare déçue de constater l'absence de séparation des prisonniers en différentes catégories. Les prisonniers partagent les mêmes cellules avec leurs co-détenus hommes. Sur le plan moral, les prisonnières sont brisées. Elles ne supportent plus la promiscuité, réclament plus d'intimité, les risques que des viols sont réels, témoigne la société civile. Le rapport de cette société civile parle également de la torture à la prison de Lubero. Les prisonniers sont régulièrement battus par des gardiens dans le but de leur soutirer de l'argent. Les conditions carcérales sont difficiles à Lubero à cause de la mauvaise volonté de la police locale, mais aussi par l'absence des subventions de l'État. Il faut construire une prison à Lubero, recommande la société civile.
Revenons à Kinshasa où le professeur Omer Koutoumissa a annoncé sa candidature à la magistrature suprême du pays. C'était ce mardi au cours de la cérémonie de l'ouverture du congrès de son parti. Pour le président national du PNRRD, Parti national du renouveau pour le développement, la lutte contre la corruption reste le cheval de bataille de son parti. On l'écoute au micro de René Capita.
Nous savons que le premier mal dans notre pays, ce n'est pas les textes. Le premier mal sont les dirigeants. C'est la dilapidation de fonds publics. C'est la corruption. Ça a anesthésié le pays. Le pays ne fonctionne plus normalement. L'opinion sait que nous sommes adonnés à cet exercice de pouvoir combattre cette corruption. À l'occasion du travail que nous avons fait au ministère de l'Éducation nationale, nous avons combattu cette corruption qui gangrenait l'enseignement national. Nous avons, avec succès, commencer ce travail, mais pour que cela réussisse, il faut que ce soit dans tous les secteurs. Alors, c'est pour ça que le parti et moi-même avons dit nous devons poursuivre ce combat-là, mais maintenant dans tous les secteurs de la vie nationale. Et la meilleure façon de le faire, c'est de briguer la magistrature suprême.
Direction Kasaï Oriental avec ce bras de fer entre les agriculteurs des chefferies de Mulundu et de Kanichin dans le territoire de Lwilou. Ces deux parties sont dépouillées de longues années dans un conflit foncier presque interminable. Les autorités administratives n'ont pas toujours réussi à mettre un terme à ce conflit. Les détails de Mbujimaï avec Julien Nyamweni.
C'est un conflit foncier qui oppose les chefferies de Mulundu et de Kanichin, particulièrement des agriculteurs. Même si l'on ne déplore ni de blessés ni de morts dans la bagarre du week-end dernier, il s'agit, explique Benjamin Ilunga Kazadi, administrateur du territoire de Lwilou, de dispute d'une portion de terre très riche entre deux rivières dont chaque chefferie se réclame propriétaire. En tout cas, les cultivateurs de Mulundu tentent d'empêcher ceux de la chefferie de Kanichin qui se réclament eux aussi propriétaires de cette même zone. Pourtant, la limite administrative entre les deux entités de base se situe au niveau de la rivière de part et d'autre. Outre cette dispute, les chefs coutumiers réclament chacun en ce qui les concerne les redevances coutumières à tous les planteurs qui travaillent dans cette région. Ilunga Kazadi a déclaré que le conflit entre les deux chefferies date des années 60. pour tenter de ramener la sécurité. L'administrateur du territoire intérimaire a pris des mesures conservatoires, celles ayant trait à l'interdiction de deux parties de travailler dans cette zone. Même si l'administrateur du territoire a dépêché les chefs de poste d'encadrement de Wikong sur place à Mulundu, il déclare que les concertations doivent avoir lieu avec les autorités provinciales pour mettre un terme à ces conflits. Julien Nyamouni, Boujimaï, Radio Okapi.
Quittons le Kasaï oriental pour l'occidental, un mort et plusieurs blessés. C'est le bilan du naufrage hier lundi dans la rivière de Chibumbu à Kamonia. Conséquence, la population devra recourir à la pirogue pour écouler les marchandises puisque le seul bac dont ils disposaient a chaviré. Une situation qui inquiète les autorités administratives. Reportage Marie-Chantal Lumba.
D'après les premières informations, le bac aurait coulé sous le poids d'un camion chargé de matériel pour l'exploitation artisanale du diamant. Ce bac relie Moudiadia à Diboko, un grand centre commercial à forte densité de population devenu célèbre par son diamant. Mais d'autres centres de Luisa et de Chikapa dépendent aussi de ce bac. Depuis cet accident qui a coûté la vie à une personne, les habitants utilisent des pirogues artisanales. Le chef de cité craint de nouveaux accidents en raison de la forte surcharge de ces petites embarcations en marchandises et en passagers. De son côté, la population met en cause les autorités administratives dans cet accident du bac. Elle les accuse non seulement de n'avoir pas su gérer les recettes, mais aussi d'avoir été incapable d'assurer l'entretien du bac. Ce à quoi les autorités répondent que le bac était déjà vétuste. À quand la réparation? La question demeure sans réponse à l'heure qu'il est. De Kananga, Marie-Chantal Lumba, Radio Okapi.
En Ituri, les populations locales dénoncent les perturbations en fourniture de courant électrique dont elles disent être victimes ces jours-ci. Ces personnes affirment subir d'énormes préjudices à cause des coupures intempestives du courant constatées à longueur de journée. Ces gens ajoutent même que les réclamations faites auprès de l'Okimo, qui assure la distribution de l'énergie électrique à Bounia, sont restées vaines jusqu'à présent. On écoute ici quelques témoignages de la population au micro de Donat Timboj à Bounia.
Nous connaissions une interruption très sérieuse au niveau de notre programme, puisqu'il n'y a pas de courant, ça fait à peu près 4 jours et tant. Ça nous amène à travailler avec des groupes électrogènes pour une journée à 82$. Or, la radio canal ne peut pas arriver à avoir 15$ par jour.
D'habitude, nous avons besoin d'un courant permanent. Mais de temps en temps, il y a coupure, nous sommes pénalisés. Nous n'avons pas un groupe électrogène, nous utilisons seulement le courant électrique. Perdons de temps en temps, quand il y a des poissons qui ne sont pas bien conservés, c'est la pourriture.
Ça ne nous permet pas de travailler à l'aise parce qu'il y a beaucoup de coupures. Semaine, nous avons le courant une fois au moins par semaine. Il n'y a pas moyen que l'entreprise puisse gagner. Nous avons beaucoup de plages ici. Il n'y a pas moyen de traverser à la machine calmement.
Est-ce que nous savons comment est-ce que nous allons voir ce calme? Parce qu'on n'a pas le courant à chaque instant. Tout ça, ça nous inquiète. Nous sommes sportifs. Nous avons besoin d'y voir le match pour visualiser surtout notre équipe.
En page internationale, le procès du principal opposant ougandais Kizza Besigye, poursuivi pour viol, a été reporté au 23 janvier à la suite de la disparition d'un témoin clé présenté par l'accusation, a affirmé mardi le ministère public, craignant qu'il n'ait été kidnappé. Et puis le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim, Mehdi Mostafavi, sera à Pretoria demain mercredi pour des discussions concernant en particulier le nucléaire, a annoncé mardi le gouvernement sud-africain. Monsieur Mostafavi rencontrera le vice-ministre sud-africain des Affaires étrangères, Aziz Parhad, pour des discussions portant sur les relations politiques et économiques entre les deux pays, ainsi que la question du programme nucléaire iranien, a déclaré Roni Mamoepa, porte-parole du ministère. Enfin, le Front populaire ivoirien du président Laurent Gbagbo a annoncé son retrait du processus de paix engagé sous les auspices de l'ONU. Le FPI déclare son retrait du processus de paix et son refus de continuer encore plus longtemps le processus de récolonisation engagée sous l'égide de l'ONU, a annoncé à la presse Pascal Affine Gwessam, président du FFPI.